Les matins, mettez
le show du matin week-end
sur la table
avec Carbo.
C'est un petit déjeuner rapide et nourrissant.
Radio X.
I need a dollar, ben oui, il y en a qui s'en... cette phrase-là est un signe, hein, évidemment.
Oui.
Bon matin, Stéphane Leblon.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va très bien.
Merci de prendre le temps de te lever puis de partir de chez vous. Tu bars ce matin alors que tu pourrais faire la cuisse chaude puis manger un petit yogourt tranquille à la maison en pantoufles.
Ça va être tantôt, le yogourt.
Oui, hein?
Oui.
Oui, yogourt tantôt. L'achat, parce que là, je t'ai demandé des anecdotes. Ouais. J'ai aussi vu dans l'actualité que le Canada est officiellement en récession technique.
Oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs? Il y en a qui sont aguerris dans ce domaine-là, puis ça, on connaît ça. Mais c'est quoi une récession technique pour un pays?
Pour un pays, là, la définition technique, là, c'est deux trimestres consécutifs de croissance négative.
OK.
Alors, t'as le PIB, le produit intérieur brut, ça, c'est la valeur de tous les biens et les services qui sont produits dans un pays. Puis quand cette valeur-là diminue deux trimestres de suite, là, ben, on est en récession.
OK. Mais là, on entend souvent les banques, le taux directeur pour contrer ça. Là, on dirait, est-ce que la banque a pas assez fait d'efforts pour empêcher ça?
Ouais, la banque, elle a bien souvent des commandes politiques aussi. Là, mais
ouais.
En gros, là, quand... Quand on a une hausse de, donner un exemple, une hausse de l'inflation, okay? Alors la façon la plus facile et la plus commune de régler ça, c'est d'augmenter le taux directeur pour éviter une surchauffe de l'économie pour qu'on ait des taux d'inflation de 10, 20, 30, 40, 100%.
C'est ça.
Sauf qu'en augmentant le taux directeur, tu augmentes le coût d'emprunt pour l'achat de biens par des particuliers, par des entreprises. Fait que les entreprises vont différer les investissements, les particuliers vont différer l'achat d'une maison parce que les taux sont trop élevés, l'achat d'un véhicule. Alors ça ralentit l'économie.
Donc,
c'est une roue qui tourne.
C'est ça, c'est une roue qui tourne. C'est la cage à hamster. Donc, c'est évident que si tu montes le taux d'intérêt, on remet à plus tard le projet d'achat d'une maison.
Ouais.
On remet à plus tard l'investissement qu'on va faire dans une entreprise.
C'est
on
ça.
Remet à plus tard. Puis là, ben, ce qui fait que le produit intérieur brut baisse.
C'est ça.
Puis pendant 6 mois... Bien là, il est baissé. Donc là, hop, on arrive à une récession.
Oui. Puis pour que le gouvernement sorte le pays d'une récession, bien souvent, il va avoir des mesures d'investissement pour favoriser la croissance des entreprises. Il va injecter de l'argent dans l'économie, quitte à augmenter le déficit. Sauf que ça, c'est bien beau, là. T'sais, on l'a vu dans les années 80, avec la grosse récession là, de 80-81.
C'était gros, là, ça, là.
Où les taux d'intérêt étaient montés là, quasiment à 20%. Sauf que ce que le gouvernement faut qu'il fasse aussi, c'est qu'il y ait des mesures contracycliques. Là. C'est quand la situation s'améliore, bien, il diminue son déficit. Puis qu'il y ait une marge de manœuvre pour la prochaine récession. Parce qu'il va toujours en avoir des récessions.
C'est toujours, c'est des cycles.
Le cycle économique, là, c'est exactement ça. C'est un cycle économique. Alors, depuis la COVID, les gouvernements provinciaux, les gouvernements fédéraux, ils ont dépensé comme s'il y avait...
Sans lendemain.
Sans lendemain, là, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'ils se sont privés de cette marge de manœuvre-là pour se sortir rapidement d'une récession. Mais, tu sais, ça, c'est de la politique. Là. Le gros bon sens puis la politique, bien souvent, c'est deux affaires.
Ça ne vient pas ensemble.
Fait qu'il faudrait qu'on élise un gouvernement plus fiscalement responsable là, pour nous sortir de ça, puis... faire le ménage des finances au Canada. Tu sais, quand au provincial, au fédéral, on dit « Ah, finalement, c'était pas 13 milliards, le déficit, ça va être finalement 9 milliards. » Tout le monde se tape des mains, là, pis, alors que c'est triste, là, 9 milliards
9
de
milliards,
déficit
c'est
pour
une province.
Là.
Ben oui.
Alors que les libéraux de Philippe Couillard, ils avaient laissé un surplus budgétaire à la fin. Là,
ouais.
On part de loin. Là.
C'est ça. Quoi qu'il n'était pas sans tâche, il n'était pas exemplaire, mais au moins, il y avait un petit
chiffre
absolu.
Là,
ouais.
On avait une petite marge de manœuvre. Là.
Petite, alors que Mme Fréchette, qui a eu une enveloppe de 250 millions, on a dépensé 350, là.
Oui, puis dans Mme le temps Fréchette, de le dire. Qui était pas au courant de la dette du Québec,
ouais.
Qui a été ministre de l'économie, ça, c'est tragique, mais il y a déjà eu pire que ça. On a déjà eu Pauline Marois, qui a été ministre des Finances, qui a été première ministre du Québec, qui, la définition technique de la récession dont j'ai parlé tantôt, elle ne savait pas c'était quoi.
C'est ça.
Fait que tu sais, partant de là, là, c'est tragique, là.
Voilà. Et qui dit récession, dit faillite. Fait que là, cette semaine, on était ensemble, Stéphane, puis on a discuté des faillites. Puis là, tu m'as parlé presque d'un hécatombe, là, présentement.
Ouais, si tu regardes, là, tu sais, c'est des statistiques là, provinciales puis nationales, là. Alors, tu sais, ce qu'on voit, moi, je suis abonné à une newsletter qui sort deux fois par semaine où on a les principaux dossiers commerciaux, que ce soit les propositions, les faillites, les avis d'intention, dans le commercial. Puis c'est surtout dans la région de Montréal où on voit, là, au niveau des restaurants, les compagnies de transport, les petites compagnies de transport, là, c'est épouvantable.
Ah oui?
Puis si on met ça en perspective avec une donnée que le Conference Board du Canada avait sortie au début de l'année 2026, il disait que 5 % des restaurants au Canada qui allaient fermer en 2026.
5 %, c'est beaucoup.
Il y a 40 000 restaurants au Canada, pour donner une idée, là. Fait que 5 % de ça, puis c'est un 5 % net. Parce qu'il y en a qui vont ouvrir, mais il y en a plus qui vont fermer.
Ouais, ouais.
Ça, c'est tragique. Ça veut dire que quand on est en récession, il y a moins d'argent disponible pour les particuliers, entre autres. Fait que la première place qu'on va couper, c'est les restaurants. Puis Dieu sait que les restaurants, c'est rendu cher. T'sais, c'est un produit de luxe maintenant. Fait que c'est comme une cage aux morts. Là. Tu vas diminuer là-dessus. Les restaurants, il y en a qui vont fermer malheureusement. Ça met des gens à pied, ça augmente le chômage.
Ouais.
Alors, ça fait moins en moins de monde qui vont aller au restaurant. Alors,
c'est boule de neige. C'est assez impressionnant.
Mais ce que ça veut dire aussi, c'est quand on a un restaurant en faillite, l'équipement de restaurant, ça vaut strictement rien parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, étant donné qu'il se ferme plus de restaurants qui s'en ouvrent.
C'est pas drôle.
Mais c'est un cycle, comme on dit. Il va y avoir des lendemains plus heureux, mais c'est comme ça que l'économie fonctionne.
Mais t'en as vécu dans ta carrière, Stéphane, des cycles. Là, tu parlais des années 80. Ouais. Moi, je me souviens de 2008-2012. Ça n'a pas été facile non plus.
T'sais, les récessions que j'ai vécues, 80-81, t'as le 99-2000, la bulle techno qui s'était foirée, la crise financière 2008-2009. Il y a eu la COVID en 2020.
Ouais.
Il y avait eu un cycle aussi relativement important en 2009 puis 2020 qui s'était foiré avec la COVID, mais tu sais, ça s'enlignait pour une...
Ça l'était. C'est juste que le gouvernement a tellement spreadé d'argent partout à PCU et compagnie qu'on a fait comme... OK.
Ah ouais, tu sais, quand tu as investi 400 milliards dans l'économie, il faut que ça apparaisse quelque part. Là.
400 milliards.
Ouais, mais tu sais, c'est alors que le gouvernement libéral de l'époque avait doublé la dette nationale, mais tu sais, sans prévoir, comme je disais tantôt, de mesures contracycliques. Tu sais,
ouais.
Les programmes là, qui on a encore aujourd'hui, qui ont été créés pour la COVID, là, il y en a encore qui existent de ces programmes-là.
Sûrement, oui.
On n'a plus besoin là, aujourd'hui.
Non.
Là.
Mais on continue de s'acharner à garder.
Bien, parce que c'est bon politiquement. C'est des comtés où on veut aller chercher des votes.
C'est de la bullshit.
Mais moi, la politique, je n'embarque pas là-dedans, mais c'est une donnée avec laquelle il faut vivre.
Et le nombre de faillites qui est en record là, présentement.
Oui.
Là, on est en des records absolus. Là,
des records. Oui, on a dépassé les données pré-pandémiques, là, parce qu'il ne faut pas se fier sur 2020-2021, mais effectivement, on a une augmentation importante. C'est pour ça que, au niveau commercial, ce qu'on appelle les MSME, Micro, Small and Medium Enterprises, là, excusez mon français, il va y avoir des mesures importantes qui vont être mises en place au premier trimestre de 2027 pour faciliter les propositions concordataires de ces très petites entreprises-là qui, aujourd'hui, ben, le remède est trop cher par rapport à leur maladie. Là. Fait que ça va donner un air d'aller là, puis donner
un instrument... Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, toi, qui es spécialiste de l'insolvabilité?
Oui, je vois ça d'un très bon œil.
Parce
que bien souvent, une entreprise va dire, ben, regarde, si je fais une proposition, ça va me coûter trop cher, c'est trop long, c'est trop compliqué, fait qu'aussi bien de faire faillite. Alors, tu sais, c'est la valeur de l'entreprise qui a été développé au cours des années, qui se perd par la faillite.
Ouais.
Tandis que s'il a réussi à faire une proposition, c'est facile, c'est efficace, bien, elle s'en sort. Puis la valeur de l'entreprise est conservée. Puis c'est ça essentiellement là, qui est notre motivation, préserver la valeur de l'entreprise.
C'est assez extraordinaire. Quand tu parles d'une petite entreprise, dans l'actualité, on a vu liquidation extrême, on a vu tous les déboires, puis je ne te demanderai pas de commenter ce gars-là. Par contre, on prend exemple d'une entreprise comme ça qui a fait tout ce qu'il fallait pour se mettre dans le trouble, puis que même pas réglé, on voit un 2.0 apparaître. Donc, le propriétaire dit « Oh, mais je vais repartir, moi, là, je vais repartir. » Comment est-ce que ça peut arriver, Stéphane, qu'une entreprise comme ça, qui ait des accusations de fraude, puis qui soit poursuivie par le fisc puis et compagnie, sans donner cet exemple-là, mais je le donne quand même, comment est-ce qu'on peut repartir avec une version 2.0 d'une entreprise comme ça?
D'abord, une société, une compagnie, là, c'est une entité juridique différente de ses propriétaires, de ses actionnaires ou de ses administrateurs.
Ouais.
Fait que c'est pas parce que la compagnie fait faillite que l'administrateur va nécessairement faire faillite.
Ça, c'est sûr.
Mais reste que, si la compagnie a fait faillite puis a droit de la TPS, de la TVQ, des déductions à la source, puis que l'administrateur a endossé les dettes commerciales, bien souvent, il va se ramasser en faillite ou en proposition ou il va être bien dans le trouble. Si la compagnie ne doit pas de TPS, de TVQ, pas de DAS, puis que le gars n'a pas rien endossé, il n'y a rien qui l'empêche de repartir une autre entreprise, une 2.0, comme tu dis. Sauf que là, il va falloir qu'il y ait des nouveaux numéros de TPS puis TVQ, ça peut bloquer là. Le gouvernement peut dire, le Revenu Québec peut dire, sais-tu, bien, on estime que c'est risqué pas mal, alors on va te demander un cautionnement ou un dépôt, une sûreté là, pour garantir ça. Puis il y a des fournisseurs qui ont perdu dans la première faillite qui vont dire, bien, gars, sais-tu, d'autres, on va demander certaines garanties. Puis si tu veux avoir une marge de crédit, ils vont demander des garanties supplémentaires, pas juste le stock, ils vont demander différentes affaires.
OK.
Alors, c'est pas si facile que ça, mais ça se fait. Puis bien souvent, si l'administrateur est endosseur au niveau des garanties de la banque, mettons, là, bien, l'avantage pour lui, ça peut être de racheter du syndic à la première faillite les différents stocks, les équipements, etc., à un prix qui va être dans le marché là, correct, mais que lui, il sait quoi faire avec ça pour... Il a appris de ses erreurs, mettons. Là.
Non, quelqu'un, un
alors, repentant. Il va pouvoir ramasser ces équipements-là, ces actifs-là, puis en tirer des profits avec ça, puis redevenir un actif pour la société.
OK, OK. Fait qu'on reste toujours du côté, non pas de la face cachée de la lune, mais du beau côté, puis on donne toujours confiance, en tout cas, à ces gens-là.
Bien, c'est évident que si la personne a fraudé, là, je parle pas de cas en particulier, mais si la personne a fraudé, bien, ça va être difficile d'obtenir du crédit de ses nouveaux fournisseurs. Puis en plus, tu sais, dans le cadre de la faillite, si le syndic a connaissance de fraude, bien, il doit en faire un rapport au bureau du surintendant des faillites qui va vraisemblablement demander un interrogatoire de l'administrateur. Puis s'il estime qu'il y a un aspect criminel à ça ou infractionnel là, en vertu de la loi, ça va être la faillite ou d'autres lois, il peut donner un mandat d'enquête à Gendarmerie royale du Canada. Le GRC va enquêter. Puis s'il y a des accusations qui sont déposées, bien, ça va suivre son cours.
Ça ressemble à une genre de accusation de fraude ou
c'est ça.
Usage de faux ou des affaires comme ça.
C'est ça.
Ben, bref, c'est criminel. Puis là, à ce moment-là, s'il se ramasse avec des sentences à payer, ça, ça peut pas passer d'une faillite.
Non, ça passe pas. Au niveau de tout ce qui est amende pénale, là, ça passe pas d'une faillite.
Voilà. Et là, je t'ai demandé, j'ai dit, OK. Un rêve, un cauchemar. As-tu des exemples à me donner dans ta carrière, que ta longue carrière qui n'est pas terminée, soit dit en passant?
J'espère.
Puis que ça peut être réveiller des gens. Tu sais, des fois, on entend, au moins, mon rêve, c'est d'avoir une Lamborghini. Moi, j'aimerais ça avoir une Lamborghini. Mon rêve, c'est ça. Bien, ça arrive des fois qu'on peut réaliser notre rêve.
Ça arrive. Puis, tu sais, moi, j'ai pas mon deal. Tu vois, mais si j'ai acheté tel char, c'était mon rêve. Tu vois, mais tu ne l'avais pas acheté, ce serait toujours ton rêve. Là.
Ouais.
Ce ne serait pas ton cauchemar. Mais les Américains disent que les grandes fortunes se perdent un dollar à la fois.
C'est ça.
Il n'y a rien de plus vrai qu'avec l'achat d'une voiture neuve.
Oui.
Tu sais, un jeune professionnel, mettons Jean Maurice, là, il décide de s'acheter sa première voiture neuve. Ça, c'est mon rêve, acheter un char neuf. J'ai réussi dans la vie, j'ai une bonne job et tout. Alors, il achète une berline hybride, c'est à mode, 60 000 $.
Bon, Ça ressemble à un Camry, ça.
C'est une décision bien réfléchie, mais 6 mois plus tard, il est confronté à des problèmes de financement, des rappels de sécurité inattendus, des frais d'entretien exorbitants, puis ce qui devait être un rêve, c'est devenu un véritable cauchemar. Bien, en 2025, là, le prix moyen d'un véhicule neuf au Canada, c'était 63 439 $.
Épouvantable. Hein?
Une hausse de plus de 20 % en 5 ans. Puis au Québec, c'est un petit peu moins élevé parce que le Québec, on achète des voitures plus petites, des Mazda 5, puis des Honda Civic, des choses-là. Fait que c'est un petit peu plus bas, mais c'est peut-être 60 000 $. Puis, un fait étonnant, c'est que 55 % des acheteurs qui financent leur véhicule sur 84 mois
et plus. Ça, c'est épouvantable.
Moi, j'ai toujours ma craque contre les chars électriques. Là. Alors, les chars électriques, c'est pas conçu pour durer 84 mois. Fait que c'est une mauvaise idée de les financer pour
vraiment.
Sur cette période-là. Fait que si tu regardes, là, les gens qui financent un char pour 60 mois ou moins, c'est entre 20 et 30
%
des contrats.
Pas plus que ça.
72 mois, c'est entre 15 et 25 %. Puis 84 mois et plus, c'est entre 55 et 60 %. Mais tu sais, on parlait de véhicules électriques, bien qu'ils soient très populaires, ben ils souffrent parfois de problèmes techniques liés aux batteries ou à l'électronique complexe. Ça, c'est une vérité épouvantable. Puis tu sais, les ventes de véhicules électriques avaient baissé au dernier trimestre de 2025. Là, ils ont repris au premier trimestre de 2026 parce que le gouvernement il a recommencé à
donner des nananes.
À donner des subventions. Puis il y a quelque chose d'assez spécial là-dedans, c'est que le gouvernement qui hésite à financer là, des solutions contre l'itinérance, puis financer l'achat de propriétés, puis la construction de logements sociaux, bien, il va subventionner des gens qui vont acheter des chars de 60 000. Ça me dépasse. Alors, l'illusion du prix affiché, ça, c'est le premier piège financier. Alors, il y a beaucoup de consommateurs qui croient qu'ils vont juste payer le prix affiché. Bien,
c'est faux
parce que le prix est au prix réel, là, c'est le prix affiché plus la TPS TVQ, ça c'est 15 % Les frais de préparation, puis d'administration, puis de transport, ça peut varier entre 1 800 puis 4 000 $
ouais.
En 2026. Puis les concessionnaires ils essayent de te pousser des options qui disent c'est obligatoire. Tapis d'hiver, traitement anti-rouille, traitement de peinture. L'antivol, l'assurance-vie pour le prêt. Quand ma femme a acheté son char, on était dans le bureau du directeur commercial, puis il dit, vous allez prendre l'assurance-vie. Je dis, pourquoi? Ben là, si vous mourrez, le char va être payé. Je dis, elle viendrait chercher, là, ce char-là.
C'est ça.
Elle va être morte.
Elle va être morte.
ça y fera pas un pli.
Mais toi, tu vois ça, mais les gens ne voient pas ça. Puis on tombe dans l'émotion facilement, Stéphane.
Ouais.
Puis le vendeur de produits, le FNI, vendre...
C'est un professionnel,
c'est un professionnel, ouais. Ça. C'est plus que ton vendeur avec ses souliers cirés puis son bac coiffe, là.
Ouais.
C'est un dangereux, ce gars-là, ou ce fille-là.
Il y a les garanties prolongées.
Ouais.
Garanties prolongées, tu sais, 5 ans. Là, j'y demande, je dis 5 ans. Le char est garanti 3 ans, bumper à bumper. Fait que, tu sais, avec la garantie prolongée, il va être payé. Il va être garanti 8 ans. Non, c'est 5 ans. Fait que c'est une garantie prolongée de 2 ans.
C'est ça. Mais on joue ses mots.
Puis une affaire qu'on voit souvent, l'antivol, tu sais, l'espèce de tracker, là.
Oh, ouais.
Le vendeur, il avait sorti une affaire comme... tu sais, il y a 98 % de taux de succès. Je dis ça, j'ai de la misère à le croire. Si tu me dis, là, ils vont retracer le char qui est dans un conteneur qui est en route vers le Nigeria, c'est correct, mais ça ramène pas le char dans le cours.
Non.
Tu
sais, il est où?
Oh oui.
Mais tu l'auras jamais, ton char. Puis un AirPod, comment ça s'appelle?
AirTag.
Ouais, tu peux le désactiver.
Ouais, mais il faut qu'il le trouve.
Ouais.
Mais tu sais, c'est ça. Tu comprends? En tout cas.
C'est 40 $.
Fait que finalement, ton véhicule affiché à 60 000 $ dans vite, là, il peut te coûter facilement 75 000 $ une fois que tu as tout figuré ces prêts-là. Puis les prêts à long terme, puis leurs conséquences, là, ben, les taux d'intérêt élevés, avec les taux de financement qui dépassent souvent le 6-7 % les acheteurs, évidemment, ils payent beaucoup plus que la valeur initiale. Puis quand tu finances tout, et tu finances toutes ces garanties prolongées, ça, l'assurance vie puis ces affaires-là, fait que ça fait des affaires épouvantables. Puis tu te ramasses avec la dette inversée, là, une équité négative. Alors, au bout de 3 ans, le véhicule, il peut perdre 50 % de sa valeur, alors que l'acheteur doit encore 70 % de son financement. Fait que pour une certaine période,
t'es en négatif. Puis ça, c'est
pas
bon.
En négatif. Fait que mettons que t'achètes un SUV, 70 000 $ Alors, c'est 84 500 $ après les taxes. Alors, tu finances ça 84 mois à 7 %. Fait que ça fait des paiements mensuels de 1215 $
Ah, c'est juste 300 par semaine.
Ça, c'est net. Ça, c'est net.
Ah oui.
Puis, avec au bout du compte, si tu le rends jusqu'au bout, il va t'avoir coûté 102 000 $
Avec des intérêts.
100 000 $ pour un char, là. Puis, la valeur de ce char-là, après 4 ans, ça va être environ 35 000 $ Puis, il faut faire attention aux ballons parce que si, à un moment donné, t'es tanné de le faire réparer ou tu te tannes de la couleur, puis tu le donnes en échange, puis tu as une équité négative, bien, ils vont t'offrir effectivement de financer cette équité négative-là sur le prochain char. Fait que tu vas te ramasser avec un char qui vaut 40 000 $ puis que tu dois 71 000 $ dessus.
C'est ça.
On voit ça couramment.
On voit ça couramment, puis souvent, c'est « Ah, je suis en réparation, puis là, pendant la réparation, bien, je suis allé dans le showroom. »
C'est pour ça qu'un lien direct entre l'atelier de réparation et le showroom.
Le corridor est là. Ah, moi, j'appelle ça la lumière au bout du tunnel.
Le corridor le plus payant.
Pendant que tu es dans le showroom, le vendeur t'a dit, mais moi, tu changes ça, on va garder tes mêmes paiements.
Exactement. Mais tu sais, une vie de plus.
Ah oui.
Alors, il y a des solutions pour éviter ces pièges-là. Comparer les taux d'intérêt. Bien, si vous êtes connu à votre institution financière, bien, faites-vous préapprouver un prêt avant d'aller chez le concessionnaire. Essayez d'éviter autant que possible les contrats de 84 mois ou plus. Essayez de rester idéalement dans le 60 mois. Puis, tu sais, dans un monde parfait, là, on finance jamais un actif qui se déprécie. Achetez une maison, financez-la parce que la valeur idéalement va augmenter. Mais le char, là, à moins d'acheter un classique, là, comme des chars que tous les chars que t'achètes, là,
ouais.
qui vont prendre de la valeur, c'est une mauvaise idée. Puis réfléchissez à vos besoins réels, là. Est-ce qu'une voiture d'occasion un peu plus récente, ça répondrait mieux à tes besoins, à ton budget? Puis, tu sais, en avez-vous réellement besoin? Vous avez déjà deux chars dans le cours, là, puis vous voulez un char d'été, là, parce que ça fait beaucoup de piastres, beaucoup d'assurance à payer.
Oui, mais c'est le fun.
Ben oui, je sais bien, c'est le fun, mais il y a un prix à ça. Puis la règle des 24 heures. Quand vous rentrez dans un showroom, là, tu sais, ça sent bon, les chars sont propres, ils ont un éclairage optimal, ils ont tout shiné, puis ils ont corrigé tous les petits défauts, puis la réceptionniste est avenante, puis elle t'offre un café. Là, c'est une technique de vente aussi. Puis le vendeur qui te dit, « Mais regarde, c'est le prix que je te fais, là, c'est juste bon pour asseoir. » Mais c'est parce que le lendemain matin, ils ne l'enverront pas à scrap, le char.
Non.
Il va être encore là.
Oui.
Puis le deal, s'il veut vendre, rencontrer ses objectifs de vente, il va te le faire quand même.
Je pense que oui.
Des rappels fréquents. Alors, Transport Canada dit sur son site qu'il y a des dizaines de milliers de véhicules qui sont rappelés chaque année au Canada pour des problèmes de frein. Ça, c'est tannant. Mais tu sais, si t'es juste, t'achètes un char pour avancer, c'est moins pire, là, mais c'est tannant des fois. Les défauts d'airbags, c'est juste pendant les accidents. Des logiciels mal configurés dans les voitures connectées. Ça, il y a de plus en plus les voitures connectées. Le BMW là, qui te vend le
banc chauffant.
Le banc chauffant à X piastres par mois. Ouais. Ça s'en vient de plus en plus populaire.
Tu es habitué avec ton iPhone. L'application s'étend par mois.
Ouais.
La protection s'étend par mois.
$1 à la fois.
Oui, c'est ça. Le Netflix s'étend par mois. Bien là, les bancs chauffants s'étend par mois. Bien là, c'est pas fou, monsieur. Comment ça, c'est pas fou?
Bien
l'été, vous n'avez pas
jour.
Besoin. L'été, vous n'avez pas besoin. Prenez-les pas.
Ouais. L'impact des consommateurs pour ces rappels-là, ben c'est des pertes de temps, de la frustration, des freins prévus. Si le défaut, en plus, il endommage d'autres composantes, là, tu sais, t'as un cardan qui est sa garantie, ben il va falloir que tu te signes pour qu'il paye l'alignement après. Là,
c'est ça, ouais.
Les garanties limitées qui sont mal comprises, cette fameuse garantie complète qui exclut les pièces essentielles, tu sais, les freins, les pneus, les batteries. Un exemple, les batteries de voitures hybrides ou les batteries de voitures électriques, vérifiez ces forums de discussion, là, c'est 5, 10, 15, 20, 50 000 $ pour une batterie là-dessus. Vérifiez là, de quelle façon c'est protégé par les manufacturiers.
Vraiment.
Si tu as frappé quelque chose là, sur la route, là, si c'est encore garanti, si c'est couvert par tes assurances. Puis les problèmes d'entretien. Le coût de l'entretien. J'avais vu un exemple l'autre fois. t'achètes, mettons, un Ford F-150 Lariat 2026 avec un beau V8, le 5 litres là-dedans, puis t'as l'idée saugrenue de le passer à ta fille. Pis surtout, ma fille, là. Puis Hercule est au cinéma, puis Hercule dans un poteau. Mais c'est pas si grave, c'est juste le feu arrière qui est brisé.
F-150 de même, mais une lumière en arrière, c'est 2200 pièces.
Exactement. Tu peux l'avoir si tu gosses un peu.
J'en ai changé une jeudi.
1950 pièces.
Ouais.
Par contre, si tu as gardé ton vieux char, tu l'as bien entretenu, tu es allé chez Carbo de temps en temps, un F-150 2016, puis ta fille, elle prend le même maudit pick-up, puis elle recule dans le même poteau. Ça va te coûter 55 piastres sur
chez
Amazon.
Chez Kenny Yopo, là, bien sûr, Amazon.
Exactement.
Mais aujourd'hui, là, juste un pick-up, t'as donné un exemple, F-150, j'aime ça que tu donnes... Là, j'ai quelqu'un qui écrit « Ouais, moi j'ai un F-150, puis 45 000, je l'ai payé sur 7 ans à 0 %.»
Puis il n'a pas passé à sa fille, c'est
non,
le principal.
Non, il l'a pas. Mais 0 %, c'est jamais un 0 % en
passant. Non, c'est ça.
C'est jamais 0 %. Mais il y a à peu près 9 modèles de lumière différentes, même si physiquement, elle est pareille. Donc, il y a des options, il y a des toutes sortes, il y a des radars là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires.
Ah oui.
Donc, c'est assez impressionnant.
Faites attention aux frais cachés, là, les traitements anti-corrosion inutiles. Il est déjà traité contre la corrosion. Là.
Oui, puis tu peux aller le faire après chez Crown.
Ah oui, puis ça va te coûter peut-être moins cher aussi. Là.
Ben oui.
L'assurance crédit non demandée, c'est pas obligatoire. Il y a certaines places, là, puis il y a des accusations par l'Office de la protection du consommateur qui dit regarde, la garantie prolongée obligatoire, là, c'est pas obligatoire.
Il y en a qui le font.
Oh, oui, oui. Il y a des amendes qui sont données à tous les ans par rapport à ça.
Tu as des taux différents si tu prends l'assurance vie ou tu as un taux différent si tu prends tel et tel produit. Mais c'est pas correct, ça.
Parce que l'assurance vie, là, tu sais, si maintenant tu aimes ça, l'assurance vie, les Québécois, on est surassurés, là. T'achètes un char de 60 000 $ puis tu prends l'assurance vie prêt, là, ben, tu sais, si le char, tu le scrapes, puis tu es obligé de demander à la compagnie d'assurance de payer la balance du prêt, puis il irait juste 1 000 $ la compagnie d'assurance, ça va payer 1 000 $
C'est sûr.
Tandis que si tu prends une assurance vie temporaire à part, puis tu, tu scrapes le char, là, puis il irait juste 1 000 $ à payer.
Ils vont te donner la valeur du char.
Ben oui, c'est ça. Mais, tu sais, si tu meurs, là, tu vas avoir 60 000 $ Ça veut dire que tu n'auras pas le solde du char.
Tu n'auras pas 1 000. Exact, ça. Vraiment.
Fait que les promesses non tenues, les vendeurs, ils font beaucoup de promesses. Là. Idéalement, demander une confirmation écrite sur le contrat, que ce soit clair. Il te garantit la livraison pour telle date, telle heure. Ou il va te rajouter telle bebelle ou telle composante, que ce soit écrit. Ça prend 2 secondes de plus, puis ça évite bien des tiraillements. Parce que des promesses tenues verbales, là, tu sais, c'est bien bon.
C'est de la bullshit.
C'est légal. Sauf que quand vient le moment d'en faire la preuve, c'est là que ça chie bien souvent.
Ouais.
Avant l'achat, là, faites-les vos devoirs. Là. Tu sais, toutes les manufactures automobiles dans l'univers ont un site Internet où tu peux savoir, tu sais, le prix suggéré de vente au détail, le MSRP, là,
ouais.
C'est un prix suggéré. Payez jamais le détail. À moins d'aller dans des modèles bien à mode, ben attendez 2 ans, puis ils vont être moins à mode. Là. Mais vous payez jamais le prix dans vite. Recherchez les avis, ces modèles que vous convoitez. Vous êtes toujours sur Internet. Prenez 5 minutes de plus pour aller voir tel modèle 2026. Là, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Puis là, si tu vois, si tous les commentaires, c'est négatif, là, ben, à regarder d'autres choses. Lors de l'achat, si, mettons, vous n'êtes pas trop sûr ou il veut vous faire signer un document qui a 8 pages, là, regarde, donne-moi-en une copie, là, je vais lire ça à la maison, je vais regarder, puis dans 24 heures ou demain matin, on fera la transaction, là. Ça te prive de rien. S'il y a des frais que vous ne comprenez pas, demander une explication claire. Puis après l'achat, ben, vérifier les rappels. Quoique, ben, souvent, ils t'envoient une carte, là, mais des fois, si tu as déménagé ou tu n'as pas fait les changements d'adresse, là, tu peux vérifier sur le site de Transport Canada. C'est super bien fait. Tu mets le nom, l'année, le numéro de modèle, puis c'est ça. Puis évidemment, suivez scrupuleusement l'entretien recommandé. Ils sont bien forts là-dessus. Quand tu fais une réclamation sous garantie, tu n'as pas fait tes changements d'huile aux 10 000 km, tu les as fait 20 000 km. Alors, on nie la garantie.
Mais mettons que ça chie avec ouais. tout ça, là. Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, il y a différentes choses à faire. On a souvent des téléphones là-dessus. La personne a dit, garde, moi, ça fait 3 mois que je suis plus capable de faire mes paiements. Ça, ce qui semblait être une bonne idée au début, là, il y a 6 mois, c'est une très mauvaise idée. Bon, si c'est juste le seul problème que la personne a là, tu peux dire, ben, garde, avertis l'entreprise qui finance ton véhicule. Dis que tu n'as plus moyen de le payer. Puis généralement, eux autres, ils ont 2 façons de récupérer le véhicule. Soit qu'ils le reprennent en paiement de la dette, ils vont envoyer un huissier le ramasser avec une remorqueuse, puis ils vont faire signer un papier qui dit, garde, tu acceptes de nous le donner, mais on ne te rembourse pas les paiements que tu as déjà faits, puis ça va éteindre la dette. Le désavantage, c'est que ça va mettre une tache négative sur ton dossier de crédit, mais ça c'est tel que tel, ça, c'est pas éternel.
C'est pas la solution absolue, mais c'en est une.
Oui, c'en est une. L'autre façon qu'ils ont de reprendre le véhicule, c'est d'obtenir un jugement pour le solde qui est dû. Ils t'envoient, évidemment, il a sauté des étapes, là, mais ils vont saisir le véhicule, ils vont le faire vendre, puis après ça, ils vont te réclamer la balance. Puis c'est ce qui arrive dans les cas de location. Alors, location, ouais, c'est bien beau, c'est des paiements moins élevés, sauf que si tu ne payes pas, ils vont le saisir, ils vont le vendre, puis là, ça va te coûter pas mal plus cher.
Oui, Michel Gaucher, huissier, nous en avait parlé, ouais, ça, ouais, d'histoire ouais. de... Location, c'est plus compliqué. OK, ouais.
Fait que,
sinon, on téléphone à Stéphane
ouais,
on Leblanc.
On peut téléphoner au syndic, là, ça ne coûte pas cher. Vous dites, vous appelez pour votre beau-frère, là, puis on va tout vous expliquer ça, les options, ce qui peut être bon. Tu sais, les voitures, quand même, il y en a certaines là, qui conservent leur valeur plus que d'autres. Qu'on peut checker au Black Book, qui est une valeur au gros. Là, puis regarde, oui, tu pourrais t'en retirer pas si pire là, en le vendant là, au gros. Mais tu sais, chaque cas est différent, mais c'est pour ça qu'on regarde ça quand vous nous appelez.
Nancy me dit, ouais, là, Carbo, vous parlez des voitures. Ben, la voiture, c'est pas mal la troisième dépense la plus importante dans la vie d'un être ouais. humain.
Première étant?
L'impôt.
Impôt et taxes, ouais. Ouais.
Et là, elle me dit, qu'en est-il, mettons, d'une motoneige, d'un VTT, d'un chalet? Ben, c'est pas mal pareil.
C'est exactement le même problème.
C'est ça, c'est exactement ouais. le même problème. Donc, tout ce que tu vois à ton bureau, c'est tout ça, là. C'est un ensemble de tout ça, là.
Oui, c'est un ensemble de tout ça. Puis, c'est parce que les gens, ils ont de la misère à figurer que, tu sais, mettons, ils achètent un VTT, c'est juste 100$ par 15 jours, là. Mais c'est parce qu'il faut que tu ajoutes à ça, là, c'est l'assurance, l'entretien.
Oui.
Il y a toujours quelque chose à faire. Au printemps, tu refais une mise au point. Il y a toujours un paquet de frais que tu ne vois pas quand il est dans le showroom, mais que tu vis dans les 6, 7, 8, 12 mois qui suivent, là, qui viennent changer la donne.
Une remise volontaire, aller déposer les clés chez le concessionnaire, une proposition, rencontrer un syndic, te rencontrer, du trouble, de la snoute. Quand ça chie, comment ça prendrait de temps après ça pour dire « j'ai montré patte blanche puis je vais revoir un crédit régulier »
C'est généralement, ça va se flusher des informations négatives dans ton dossier de crédit 6 ans après la date du dernier événement.
Okay.
Alors, si c'est une reprise après 6 ans, ça va être purgé de ton dossier de crédit. Il n'y a pas
des clignes, t'es blanc
un
comme
créancier même. Subséquent.
Mais il reste de quoi d'écran quelque part pareil?
Oui, mais pas dans ton dossier de crédit. Un tiers, là, un prêteur futur, il ne verra plus dans ton dossier de crédit.
T'es vraiment blanc comme neige.
Oui, oui, oui.
Donc, ça a mal été. Ton rêve ne s'est pas réalisé ou ton rêve s'est réalisé puis il n'aurait pas dû se réaliser puis que tu te ramasses dans le trouble comme ça. Donc, un achat d'un bateau, d'un chalet, peu importe, ben tu vois, il y a toujours une solution quand même. Puis ce que tu vois trop souvent, c'est des gens qui mangent leur vie dans le stress puis dans l'anxiété par rapport à ça.
C'est ça, parce que les problèmes financiers, là, ça affecte pas juste le portefeuille, ça affecte là, ton emploi. Tu es moins concentré, ça nuit à ta vie de couple, tes relations avec tes enfants, ta santé mentale dans certains cas. Il faut pas oublier que c'est juste de l'argent. Là. Puis il y a des solutions. Puis au Canada, on a un bon système d'insolvabilité qui vise la réhabilitation du débiteur malchanceux. Fait que, tu sais, on est chanceux au Canada de ne pas être aux États-Unis parce que c'est pas la même game aux États-Unis.
Non, aux États-Unis, ce serait un peu plus compliqué.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Stéphane Leblond, de prendre le temps dimanche comme ça, calmement, de nous expliquer les tenants aboutissants de tout ça. Puis comme on dit tout le temps, moi, je vous le dis, les vendeurs de chars, c'est pas que je les aime pas, j'en ai plein d'amis vendeurs de chars, mais prends un break 2 minutes.
Oui, c'est ça. Puis si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site gosyndicleblond.com puis 418-525-4641.
Voilà! On s'en va une pause et au retour, le grand, l'unique, Renaud Labrecque.
Le show du matin week-end.
Salut tout le monde!
Radio. Ick.